100% d'Europe, Frédéric Lebel.
You in France love nothing more than acting like you are better than Britain and America. Well, now is your chance to prove that. Because we made populist, nativist choices with Brexit and Trump. And to be honest, it's not working out so great for us so far.
Bonjour à tous. L'Europe, tous les candidats français à l'élection présidentielle ont disséqué la place de la France dans l'UE et la zone euro. Et ils n'ont pas oublié non plus de s'adresser à ces travailleurs détachés français qui sont employés hors de nos frontières et qu'on appelle aussi des expatriés. Ils sont 300 000 au Royaume-Uni, autant dire incontournables. Que pense-t-on justement de ce scrutin outre-Manche ? Pas que des bonnes choses, si l'on en croit ce reportage à Londres de Marie Billon.
The French House, un pub en plein cœur du quartier de Soho, qui détient un record. C'est l'établissement qui vend le plus de Ricard de tout le Royaume-Uni. La clientèle est surtout britannique, mais Terry, le barman, entend quand même régulièrement parler français et ça discute souvent politique.
J'ai compris qu'il y avait deux candidats principaux, Macron et Le Pen. Moi, je veux que ce soit Macron qui gagne. Je n'aime pas Le Pen ou l'extrême droite. Je trouve ça encore plus important après le Brexit.
Mon Dieu, oui, extrêmement important. Celui ou celle qui sera élu donnera le ton pour les prochains mois. Il y a tellement de changements partout.
La plupart à vous garder un œil sur ce qui se passe en France sans vraiment approfondir la question. Kevin, par exemple, est surpris de savoir qu'il y a 11 candidats.
Ici, on entend beaucoup parler de Le Pen et Perron, c'est ça ? Macron, pardon. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Tony Blair, sa personnalité, ses idées. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à gauche. En tant que socialiste, je soutiendrai un socialiste.
Mais le nom de Benoît Hamon ne lui dit rien, ni celui de Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Celui de Jean-Luc Mélenchon commence à être un peu plus connu ici. Le Chavez français l'appelle le journal The Times. Au centre et à droite aussi, les Britanniques connaissent mal les 5 autres candidats. François Fillon a pourtant fait beaucoup parler de lui avec son épouse galloise, bien sûr, et les scandales. Pourtant, on dirait que le représentant des Républicains est un peu oublié, et pour cause, dit John.
Si un politique britannique était lié à plusieurs scandales, je ne pense pas qu'il resterait candidat.
Assis au comptoir, Sullivan est un vrai francophile, même s'il avoue ne pas vouloir échanger son whisky contre du vin français, et il est très déçu.
C'est honteux. Vraiment, on ne dispute pas des arguments. On essaye de jeter de l'abus dans la face de l'autre. Non, c'est pas très intéressant. On espérait plus de la France, que ses candidats. Les meilleurs que la France peut offrir comme candidat sont ça, c'est pas possible.
On dit que c'est ici, dans ce pub, que le général de Gaulle a écrit son appel du 18 juin. Une ironie encore plus cruelle pour Sullivan, car pour lui, aucun des 11 candidats n'a la carrure d'un homme d'État.
Promouvoir le vivre ensemble, pas facile dans un pays comme la Belgique qui a été traumatisé par les attentats de mars 2016. Alors que les communautés ont tendance à se replier sur elles-mêmes et que les musulmans se disent stigmatisés, une association organise des stages à Bruxelles pour mettre du bon sens et de l'information derrière l'émotion. Des stages surtout destinés à des professeurs, des travailleurs sociaux et des éducateurs de toutes origines. L'ex-Milota a assisté à l'une de ces formations qui avait pour intitulé Islam, islamisme et djihadisme, quels enjeux ? Écoutez son reportage.
Ok pour la question, et la question est claire. Qu'évoque pour vous le terme Daesh ? Quand on vous dit Daesh, qu'est-ce qui vous passe par la tête ?
Djihad quoi ?
Propagande aussi.
En petit groupe, marqueur à la main, les participants réfléchissent à ce qu'évoque pour eux le terme Daesh. Ils notent sur une grande page blanche les mots qui leur viennent à l'esprit. Terrorisme, secte, violence, attentat, financement, embrigadement. Ils sont enseignants, éducateurs, animateurs, exercent des métiers au contact des jeunes.
Personnellement, on n'entend pas la même chose là-dedans. Bah, je comprends ce que tu veux dire. Bon, le mot était sans doute mal choisi, mais c'est le fait qu'ils arrivent à s'autofinancer, tu vois.
Le débat prend forme. Il faut entrer dans le politiquement incorrect pour Myriam Amrani, responsable de l'association d'Akira qui organise la formation.
C'est important dans le cadre du vivre ensemble de pouvoir mettre des mots
sur un ressenti, sur des questions qui se posent au quotidien dans nos quartiers métissés, de plus en plus métissés, et sur lesquels, depuis un certain nombre d'années, il y a une forme de politiquement correct qui s'est installée, qui constitue un véritable verrou pour vraiment discuter de questions qui fâchent, du genre « ceci n'est pas l'islam, n'a rien à voir avec l'islam ». Si, d'une certaine manière, c'est l'islam, c'est une vision, une perception de l'islam. Ces gens se présentent comme tels, en tout cas, ces djihadistes se présentent comme musulmans, et il faut pouvoir l'entendre, même si cet islam défendu par ces djihadistes ne correspond pas à l'islam promu par d'autres musulmans vivant en Europe aujourd'hui.
Phénomène Daesh, dont je vous propose donc quelques clés de décryptage.
Pour clarifier les définitions, donner des repères historiques, un intervenant est invité à chaque session. Cette semaine, c'est Didier Leroy, chercheur à l'Académie royale militaire.
On aborde en effet quelques termes qui sont souvent utilisés à toutes les sauces à notre époque, comme le wahhabisme, le salafisme, etc. On essaie un petit peu de baliser le champ sémantique de ces termes et de voir dans quelle mesure un acteur comme l'État islamique mobilise ces notions-là.
Des outils nécessaires pour pouvoir répondre en cas d'interrogation de la part des jeunes sur le terrain. Numa Kino travaille à Infor Jeunes Bruxelles, le point d'information jeunesse de la capitale.
Tout d'abord, de mieux connaître, mieux cerner le phénomène, le replacer dans son contexte historique et géopolitique, et ensuite de voir, effectivement, de se poser les bonnes questions par rapport à l'embrigadement, notamment des jeunes. On parle beaucoup de recul de l'esprit critique. C'est sur ce genre de levier que nous, on doit agir, pour effectivement permettre aux jeunes ou aux tout venants de pouvoir questionner en toute autonomie et de façon tout à fait critique les discours qui sont relayés par les médias ou par Daesh eux-mêmes ou d'éventuels recruteurs qui seraient croisés soit sur le net ou dans la rue. Donc on donne toutes les clés en main, toutes les informations nécessaires aux jeunes pour qu'ils puissent effectivement se diriger de façon autonome dans leur vie.
Vital Marage intervient pour sa part au service de prévention de la commune d'Anderlecht.
Oui, on sent quand même une certaine perméabilité à un certain type de discours. Par exemple, sur les théories conspirationnistes ou bien sur la vision un peu manichéenne du monde avec les bons, les mauvais. Mais ça, c'est typique d'enfants ou d'adolescents. Mais donc, oui, on est confronté. Oui, on le sent. Mais concrètement, vous dire, voilà, à ce moment-là, lui, il m'a dit, je vais partir en Syrie ou je vais me faire ça, ça n'arrive pas. Ça, je n'ai pas, moi, en tout cas, constaté. Mais on travaille sur des discours. Alors, l'antisémitisme ou toutes ces questions-là, oui, c'est des questions qui sont récurrentes.
Chez certains participants, des questionnements, des remises en cause sont nés. Frédéric De Hacht est gardien de la paix à Forêt. En Belgique, ils n'ont pas de pouvoir de police. C'est un agent de proximité qui fait le lien entre la population et les autorités.
Sincèrement, ça pose des questions aussi sur la société actuelle, en disant, mais en fait, c'est notre société peut-être aussi qui a créé tout ça. On parle du chômage, et donc je crois que c'est une réflexion qu'on devrait avoir tous, même jusqu'aux plus hautes instances, en disant, mais est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité là-dedans par rapport à tout ce qui se passe?
L'association d'Akira donne des clés pour sortir de la posture de victimisation ou au contraire de stigmatisation pour que le vivre ensemble demeure une expression typiquement belge. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le plus grand naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée. 700 réfugiés étaient à bord, 28 seulement ont survécu. Aujourd'hui, l'épave a été récupérée, mais les autorités italiennes ont entamé un long processus d'identification des corps et d'information des familles. En Sicile, Cécile de Barge.
Au lendemain du naufrage, l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi avait fait cette promesse folle. « Nous irons récupérer ce bateau, nous donnerons une sépulture à ses victimes et nous retrouverons leur famille. » Le bateau a été récupéré en juin dernier et les autopsies ont eu lieu jusqu'au mois d'octobre. Reste désormais à analyser toutes les informations recueillies et surtout à retrouver les familles. Vittorio Piccitelli est le commissaire extraordinaire aux personnes disparues.
Ça, c'est l'opération la plus difficile, parce que ce sont des personnes qui viennent de l'autre bout du monde, de la Corne de l'Afrique, de pays très loin, et souvent, ils n'ont jamais entendu parler de ce bateau.
La difficulté est donc de transmettre l'information jusque dans les pays d'origine des victimes, en majorité en provenance d'Afrique de l'Ouest. Que peuvent donc faire les familles qui pensent que leurs proches se trouvaient sur ce bateau? La réponse du préfet Piccitelli.
Nous envoyer, y compris par mail, des images d'un proche qu'ils croient disparu au cours de ce naufrage. Et s'ils n'ont pas d'image, alors ils peuvent nous envoyer un profil ADN, à condition, bien sûr, d'avoir un lien de parenté vertical avec la victime ou bien un effet personnel qui a appartenu au disparu, du type brosse à dents, bout d'ongles, mèche de cheveux. Et nous, on se charge ensuite d'établir un profil ADN.
L'opération lancée par l'Italie est inédite. Elle s'appuie pour cela sur les réseaux des Croix-Rouges nationales et de la Croix-Rouge internationale en lien permanent avec le Labanoff, le département de médecine légale de l'Université de Milan. Un travail titanesque donc pour tenter d'identifier les 627 corps récupérés et qui devrait prendre encore plusieurs années.
La liberté de la presse. Pendant longtemps, les Pays-Bas ont été en tête du classement, numéro 2 encore l'an dernier à l'échelle mondiale. Mais la situation pourrait changer en raison des dernières élections. Car les deux principaux partis populistes, dont le Parti pour la liberté de Geert Wilders, ont délibérément cherché à écarter les journalistes de leur campagne. Reportage aux Pays-Bas d'Antoine Moutot.
Thomas Bruning est très préoccupé. À la tête du NVJ, la Fédération néerlandaise des journalistes, c'est lui qui a récemment tiré la sonnette d'alarme, notamment par un communiqué destiné à l'opinion publique du pays.
Lors des dernières élections, nous nous sommes rendus compte que, par rapport aux dernières années, certains partis et leurs chefs avaient vraiment changé leur manière de traiter les journalistes.
Thomas Bruning vise deux partis en particulier.
Il y a d'abord à l'extrême droite de l'échiquier politique, le PVV avec son chef très puissant qui est suivi sur Twitter par plus de 800 000 personnes et qui communique énormément sur les réseaux sociaux. L'autre parti, c'est Denk, une nouvelle formation surtout soutenue par des électeurs d'origine turque et marocaine.
Ces deux partis sont ceux pour lesquels la Fédération des journalistes a reçu le plus de plaintes de la part des confrères.
Concrètement, les plaintes portaient sur la couverture des meetings politiques, mais aussi le soir des résultats, où traditionnellement les médias sont toujours les bienvenus. Chez Denk, par exemple, tous les médias ont été refusés, à l'exception d'une chaîne de télévision publique. Et même pendant des meetings à travers le pays, des journalistes des médias régionaux n'ont pas pu entrer. L'argument de Denk, c'est qu'ils ont leurs propres médias, les réseaux sociaux en fait.
Pendant la campagne des législatives, le chef de file de l'extrême droite néerlandaise, Geert Wilders, a notamment boycotté la rédaction d'informations de RTL, mesure de rétorsion parce que la chaîne avait osé tendre le micro à son frère, très critique envers lui et son programme électoral. Mais ce n'est pas tout, Geert Wilders a également annulé sa venue à plusieurs débats télévisés. Une fois, il a même décidé de ne pas se rendre sur le plateau d'une émission d'actualité de la télévision publique. « Je n'aime pas », s'était-il contenté de dire comme seule justification. Pour Thomas Bruning du NVJ, il n'y a pas de doute, Geert Wilders a tout appris de Donald Trump aux États-Unis, dont il est d'ailleurs un grand fan.
Wilders a été très inspiré par ce qui s'est passé en Amérique. Et ça fait déjà un moment qu'il a l'habitude de mettre en doute l'objectivité, l'opportunité et l'indépendance des médias aux Pays-Bas.
Une défiance vis-à-vis des journalistes qui se retrouvent aussi dans la rue, comme ici dans le centre de La Haye. Riertje, 54 ans, est gérante d'un magasin de vêtements et les médias, elle ne les aime vraiment pas.
Mauvais. Dans l'ensemble, ils sont mauvais. C'est incroyable à quel point ils racontent n'importe quoi.
Pour elle, si certains partis ferment désormais la porte aux journalistes, c'est amplement mérité.
Ça, c'est à cause des fausses informations qu'ils publient. Je ne suis pas pour le PVV ou pour Denk, mais les médias ne parlent que de ce qui va mal aussi. Eh bien, voilà donc ce qui leur arrive maintenant.
Marit, 21 ans, est étudiante et par moments, les journalistes l'agacent aussi.
Je pense que la presse aux Pays-Bas peut être trop étouffante. Les journalistes obligent à répondre, comme pendant des conférences de presse, par exemple.
Ad van Liemt est un ancien rédacteur en chef. Il estime que le changement d'attitude face aux journalistes prend ses sources au début des années 2000. Il était alors aux commandes d'un magazine d'actualité de la télévision publique.
Het eerste wat ik ervan weet in mijn ervaring is Pim Fortuyn. U weet dat was een.
Tout a commencé avec Pim Fortuyn. Rappelez-vous, cet homme politique apparu en 2001. Un an plus tard, son parti était crédité de très bonnes intentions de vote. Finalement, il a été assassiné, ce qui est bien sûr horrible. Mais de son vivant, une partie de sa stratégie électorale consistait à se disputer avec les journalistes. Et ça, il l'avait appris des États-Unis. Son chargé de relations publiques avait d'ailleurs été formé aux États-Unis et il avait dit à Pim Fortuyn, c'est une très bonne chose de se disputer avec les médias, tes électeurs vont adorer. Het kan
goed uitkomen als je ruzie maakt met media, want dat vindt jouw achterban fijn.
Pour Ad van Liemt, l'attitude de Pim Fortuyn à l'époque, comme celle de Geert Wilders aujourd'hui, sont un énorme défi auquel les journalistes néerlandais doivent d'urgence trouver une réponse. Dans un magazine destiné à la profession, il développe les options qui s'offrent aujourd'hui à ses collègues.
Par exemple, si un candidat a refusé ton invitation une vingtaine de fois pendant l'année, qu'il ne veut pas venir dans ton émission ou dans ton journal, eh bien au moment des élections, tu dois lui répliquer « Ah non, désolé, vous avez toujours refusé de venir, alors cette fois, pas question de vous inviter. »
Et nou wil je graag. Et nou zeggen wij nee. Dat zou kunnen.
La stratégie anti-média de Geert Wilders et de son parti n'a pas forcément été payante. Malgré les sondages qui le disaient grand vainqueur des élections, il n'est arrivé que deuxième, loin derrière le parti libéral du Premier ministre sortant. Épreuve s'il en est que Geert Wilders regrette déjà peut-être un peu son attitude. Selon plusieurs journalistes, au lendemain des élections, le bureau du PVV au Parlement était enfin ouvert aux journalistes. Chose qui n'était plus arrivée depuis longtemps.
Le russe n'a plus la cote, ou plutôt la langue russe est de moins en moins pratiquée dans l'ex-espace soviétique. C'est ce que montre une étude récente du cabinet Euromonitor International sur la base de statistiques nationales des Nations Unies. Régis Janté, bonjour, vous êtes notre correspondant pour le Caucase et l'Asie centrale. Vous constatez vous-même ce déclin de la langue de Pouchkin en ex-URSS?
Oui, nettement, notamment parmi la jeunesse. Ici, en Géorgie, par exemple, je vois bien que quantité d'étudiants ne connaissent plus le russe et pratiquent le géorgien et, de plus en plus souvent, l'anglais, lequel a fait l'objet d'un fort soutien depuis une quinzaine d'années. L'étude que vous mentionnez donne des chiffres éloquents. Au Kazakhstan, par exemple, en Asie centrale, pays entretenant plutôt de bonnes relations avec la Russie, 20,7% des Kazakhstanais disent parler le russe à la maison contre 33,7% en 1994. En Ukraine, pays ayant au contraire une relation très difficile avec Moscou, le taux de personnes considérant le russe comme leur première langue est passé en 22 ans de 33,9 à 24,4%. On note une chute comparable dans les pays baltes.
Le président du Kazakhstan vient d'annoncer le passage à l'alphabet latin d'ici 2025. Pourquoi cette décision alors que le pays a une forte minorité russe ?
On a beau entretenir une relation pacifiée avec l'ancienne puissance coloniale, on n'en est pas moins très prudent à son égard, surtout après que le Kremlin ait en 2014 annexé la Crimée et déclenché un conflit séparatiste dans l'est de l'Ukraine. D'autres pays de la région, ceux turcophones notamment, comme le Turkménistan ou l'Azerbaïdjan, entre nationalisme et méfiance à l'égard de la Russie, sont passés à l'alphabet latin dès les années 1990. Le président kazakh, Nursultan Nazarbayev, a publié un article le 12 avril dernier, en expliquant cette décision par la nécessité de mieux inscrire son pays dans la modernité, en permettant aux jeunes Kazakhstanais de mieux apprendre les langues utilisées dans les échanges mondiaux, qu'ils soient culturels ou commerciaux.
Et pourquoi ce déclin du russe en ex-URSS ?
Deux types de facteurs. Le premier est géopolitique. Les ex-républiques soviétiques croient en leur indépendance et ne veulent plus être sous le joug russe, tandis que Moscou a clairement une attitude néocoloniale, d'où des politiques linguistiques consistant à promouvoir d'autres langues, à commencer par l'anglais bien sûr. Le second facteur est que Moscou n'a pas de politique de soutien de sa langue. Il n'y a pas d'institut Pouchkine partout dans la région, comme il y a les alliances françaises ou l'institut Cervantes pour l'espagnol.
Merci Régis Jean. À Tbilissi. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.